Alors, le vrai truc, c'est quand j'étais sur un marché et on m'a appelée la reine des neiges, je m'en suis pas encore remise. Vraiment.
Un petit bruit buccal.
Rendez-nous les chips.
Subtilement dosé. Le chip est en danger.
Le chip.
Le chip.
Vous écoutez.
Le chip.
Vous écoutez.
Le podcast afro d'Arte Radio.
Quoi? Comme.
Salut à tous, vous écoutez Le Chip, le podcast afro d'Arte Radio. Je m'appelle François Aulac et comme d'habitude, je suis avec la fine équipe Mélanie Manga. Comment tu vas, Mélanie?
Bonsoir François, ça va très bien. Et
bonne
toi?
Année, bonne année.
Bonne année.
La santé, tout ça.
Ouais.
Et évidemment, Kevin Donna, comment vas-tu, Kevin?
Bonne année, bah ça va très bien. Très bien.
Ce soir, pour la première émission de 2018, on a une invitée, on a une guest, on a un featuring. Marie, comment tu vas?
Ça va. Genre, je suis en featuring, c'est trop bien. Ça déchire.
Alors, pendant cet épisode, on va discuter avec Marie da Silva, donc, qui est coach pour femmes racisées en entreprise. C'est bien ça?
C'est bien ça.
Tu vas nous expliquer un peu comment tu fais pour aider des femmes qui sont victimes de harcèlement sexiste, raciste ou les deux en entreprise.
Tout à fait.
Et ensuite, Mélanie va nous parler de ses vacances en Côte d'Ivoire, puisque tu as fait un petit retour aux sources.
Effectivement, j'ai beaucoup de choses à dire. Je suis changée de l'intérieur et je crois qu'en fait, je ne suis pas une femme métisse ou noire, mais une femme blanche. Vous en saurez plus tout à l'heure.
Avant ça, peut-être savoir un peu comment vous allez, qu'est-ce que vous devenez depuis la dernière fois.
Kevin Chouchou, ça va?
L'année commence bien. Il y a eu des articles pour le Paris Nord, donc ça, c'est cool. Et puis, à la fin du mois, je vais participer à un festival qui s'appelle Hors Piste, organisé au Centre Pompidou. Et cette année, c'est sur la fiction, le mythe de la nation. Et donc, venir parler de tout ça, discuter de tout ça, comment on décolonise la ville, des choses comme ça.
Cool. Mmh. Et toi, Mel?
Je ne vais pas tout de suite parler de la Côte d'Ivoire, mais je suis revenue avec le palu. Donc, voilà, l'année 2018 commence bien. Non, mais ça va, j'ai survécu, hein. Tout va bien.
Moi, j'ai commencé à travailler dans un nouveau média qui s'appelle Loopsider. Et c'est cool, on fait des petites vidéos d'actu à destination des réseaux sociaux. Ça s'est lancé la semaine dernière et j'ai plein de sujets noirs dans les tubes. Donc, je suis assez heureux en plus du type de pouvoir faire ça.
J'ai vu un sujet très cool. Sur un gynécologue, sur Loopsider, sur un gynécologue brésilien qui fait danser les patientes sur le point d'accoucher.
Sur Despacito,
sur plein de musique avec des chorégraphies de malades pour déclencher les accouchements et faire les choses un peu plus en douceur.
Mais Despacito, ça marche pour accoucher parce que c'est mou, quoi.
Il montrait une dame en train de danser sur Despacito, elle a accouché 10 minutes après la chorégraphie.
Je pense que ça marcherait sur Binyman aussi. Hein.
Oui, sur plein de trucs qui bougent. Oui.
Et sur Joule là.
Pas.
Non, sur Jules, l'enfant, il va vouloir rester. Là.
Merci,
Marie. L'accouchement qui dure 30 heures.
De rien.
Le trashico.
Trash ou iconique?
Le trashico.
Le trashico.
Kevin, tu voulais nous parler de l'article sur Rokhaya Diallo qui est paru dans Le Monde, c'est ça, dans le magazine du Monde?
Ouais, de façon plus globale, il y a eu pas mal de couvertures d'articles sur elle. Donc, il y a le magazine M du Monde qui, le week-end dernier, donc, avait brossé un portrait sur elle et l'a mise en couverture avec en tenue de boxeuse. Et puis surtout, sa participation à l'émission C'est Politique de France 5. Et c'était assez intéressant, l'émission C'est Politique, parce qu'on se rend compte qu'en fait, Rokhaya, elle dérange parce qu'elle utilise des mots qu'on n'a pas l'habitude d'entendre en France.
Blanchité,
racisme d'État, des choses comme ça. Et c'est toujours très intéressant parce que ces débats-là, ils sont un peu importés d'ailleurs. Enfin, c'est le sentiment que les vieilles élites ont souvent, que ces débats-là n'ont pas lieu d'être en France. Et Rokhaya, c'est vraiment la voix de tous ces nouveaux mots-là, d'intersectionnalité, des trucs qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Et puis, de façon plus globale, il y a quelque chose qu'on voyait aussi percer un peu dans le débat sur ces politiques, c'était que c'est des questions qui se posent aussi, ou qui devraient se poser peut-être au sein de la gauche aussi en France, où on a pris un peu de distance par rapport à ça. Ça se cherche, ça n'ose pas employer tous ces mots-là. Donc, j'ai trouvé ça assez cool et je suis curieux de voir l'impact et les influences, enfin les conséquences que ça va avoir.
Alors moi j'ai lu l'article, j'ai un petit bémol à apporter. Effectivement, je trouve que l'article est par endroit un chouïa condescendant. On pouvait s'y attendre malheureusement parce que c'est vrai que c'est quand même une figure controversée, Rokhaya Diallo. Donc le fait qu'on lui accorde un espace comme ça dans un grand titre de presse français, c'est quand même, je trouve ça vraiment bien. Mais ils n'ont pas pu s'empêcher de placer de ci, de là, des petites... On se demande pourquoi elle est là, comment elle est arrivée là. Elle avait qu'un master en droit. Enfin, y a vraiment un truc un peu un peu condescendant. Quand je l'ai lu, j'ai eu le petit frisson que j'ai habituellement, tu vois, mon petit spider sense qui s'est activé. J'ai fait.
Mais bon. Cringe.
Ils le disent au début dans l'édito, non ? Que c'est pas. Comme la façon dont il se place, ils disent que ses détracteurs vont pas trouver un truc à charge contre elle, mais ses défenseurs vont pouvoir. Je sais plus comment ils ont formulé ça, mais que. Voilà.
Ils ont voulu se placer, oh là là, on est objectif et tout, mais l'objectivité, c'est pas juste de. Enfin, c'est pas de dire, de rabaisser quelqu'un en disant, ah, elle n'a qu'un master, on se demande comment elle est arrivée là, en gros, quoi.
J'ai le droit de dire que l'objectivité n'existe pas, trop.
Tu peux,
parce que ça n'existe pas.
Mais dans la presse, c'est un sujet sensible, tu vois. Si, la presse française, bien sûr qu'on est objectif.
Ou alors de leur demander de faire attention à qui ils donnent des tribunes la même semaine.
Tu vois, Shane.
Alors moi, j'avais un trash à décerner, du coup, un trash d'or. Un trash award. Alors moi, je connaissais surtout Bamboula en tant qu'insulte, hein, n'est-ce pas ? Et j'ai appris un peu...
Mais c'est convenable.
Mais c'est convenable, mais j'ai appris en faisant, en faisant des vidéos et en faisant des recherches, justement, qu'il y avait aussi une BD et des biscuits.
Bonjour, je m'appelle Bamboula. J'ai donné mon nom à un délicieux biscuit au cacao.
Mais une BD, donc, publiée dans les années 50, qui s'appelait Bamboula, les aventures de Bamboula, et qui racontait, en fait, les aventures d'un petit garçon issu d'un pays noir, et qui, en fait, débarque en France, en Europe, je sais pas où, et qui, en fait... découvre le monde, découvre la civilisation. Évidemment, c'est un gamin un peu stupide et naïf qui parle en petit nec, qui dit des ça y en a bon, je sais pas quoi, qui dit je vais vous faire le. J'arrive même pas à le faire, le petit nec des os. Qui parle en gros comme un stupide, comme une parodie finalement de nègre. Et en gros, les éditions de Varly, qui sont mises en édition parisienne, voulaient rééditer.
2017, ils se sont dit, allez.
La BD, voilà. Face à la vague d'indignation qu'il y a eu, notamment Claude Issiard, qui a fait un petit tweet où il a dit qu'il allait débarquer en personne dans les locaux des éditions.
Il a plus le temps. Il a plus le temps.
Ouais, le gars, il est.
il est chaud.
Il est straight to the point. Bref, devant la vague d'indignation qui a eu lieu, finalement, la réédition a été annulée, malgré les justifications au début qu'il y a eu. Des éditions de Varly. Je vous cite peut-être le Georges Fernandez, le directeur des éditions, qui disait que, selon lui, Marcel Turlin, qui, donc, l'auteur, qui était l'auteur de la BD, souhaitait en fait la fraternité entre les hommes. et qui disait également que, selon lui, la réédition de cette BD était nécessaire dans une France en 2018 qui est justement... était encore raciste, donc voilà, comme justement Bamboula est une sorte de manifeste de tolérance, et ben c'était bien de le faire. Bref, la réédition a été annulée, on va dire que c'est cool. Moi perso, je suis un peu vénère quand même, parce que c'est quand même dingue qu'il y ait eu besoin de s'indigner pour que la réédition soit annulée. Voilà, on vit dans un pays, j'ai l'impression, où en fait, par défaut, si tu ne t'indignes pas, tu auras droit à la réédition d'une BD dont le titre... est littéralement, la BD s'appelle littéralement Sale Négro. Ouais. Je trouve ça un peu problématique, quoi. Et c'est un peu, selon moi, une sorte de crève-cœur, en fait, de devoir être obligé d'expliquer que tu as le droit à cette forme de dignité, d'être obligé de faire de la pédagogie, justement.
Ou alors, tu fais complètement l'inverse de ça, et si tu dis si on y va à fond, et tu fais un truc à l'américaine, tu ressuscites la franchise, tu fais un préquel, tu fais un truc, un film, une trilogie.
Bouleverse.
Un bouleverse.
Un univers étendu. Oh mon Dieu. Mais bon, voilà, c'était mon trash. Alors, j'ai découvert un nouveau terme, négro choco, vous connaissez ou pas ?
Si, oui.
Les négro choco.
Définis négro choco.
Qui est-il ?
Vas-y, Marie, explique.
Ce que j'ai cru comprendre, c'est... Moi, le négro choco, c'est un peu ma version de ce que j'appelle les noirs que rien n'offense.
Ah,
c'est exactement
voilà.
Ça. Ouais.
D'accord.
Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, on parle du positionnement du négro de choco par rapport à Bamboula, lui, ça va être celui qui va dire « Non, mais quand même, c'est quand même un hommage. » Voilà.
Je l'ai vu.
J'aime beaucoup, voilà. J'aime beaucoup ton imitation
de
négro choco.
Oui, c'est ce que j'allais dire. J'adore ta voix de
négro
choco.
Merci beaucoup.
J'aimerais que tu parles comme ça pour tout le monde. Oui, en gros, c'est lors du Blackface de Griezmann, il y a un mec qui a fait un tweet qui s'appelle Darielle, c'est son pseudo Twitter, et qui a fait un tweet pour dire « Moi, je suis pas choqué. » Et franchement, si vous voyez du racisme là-dedans, c'est que vous êtes pas à l'aise finalement avec votre propre blackness. Et moi, je suis tranquille, je suis en paix avec ça. Signé un négro choco. Et du coup, en fait, Twitter, le Black Twitter a repris l'expression. Et depuis, on a une vague de négro choco. C'est absolument magnifique. Par exemple, pour l'histoire de H&M, vous savez, et du pull Coolest Monkey in the Jungle. Il y a des gens qui ont dit, oh là là, ça y est, le négro choco FC, ça grandit. C'était absolument magique. Voilà.
Il y a des labels négro choco aussi. Oui. On discute bientôt d'Howard négro choco.
Ah,
enfin, voilà, c'est des vrais trucs, des vrais bails qui se mettent en place.
Je sirote le thé et j'attends.
Moi, cette semaine, j'ai pas de trash iconique, donc je vais passer mon trash à Marie.
Bah, c'est bien sûr les victoires de la musique. Où je me dis, voilà, par simple... Enfin, moi, je regarde pas les victoires de la musique. Donc, mais je me suis dit, bon, par curiosité, je regarde toujours qui est nominé dans la catégorie rap, etc. Quelle a été à ma surprise quand j'ai constaté que ça ressemblait un peu au rayon Candia de Franprix. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, tu vois que dans la catégorie urbaine, en fait, tu n'as aucun rappeur noir. Après, j'ai fait des recherches, voir si Booba était décédé. Non, il est toujours vivant.
Damso, qui a dominé l'année, voilà, mais de janvier à décembre. Vers succès, c'est pas trompé. Vers succès, c'est ne pas se tromper. Tant de billets jaunes, vert, violet.
J'ai tout nié, toi balancé. Tout est écrit, ouais, qu'ils m'ont dit. Les mêmes qui ont dit que j'arriverais pas. Voilà, qui est toujours vivant,
ouais,
d'ailleurs.
Oui,
donc,
qui est vivant, enfin.
Je ne comprends pas.
Niska qui avait le tube,
voilà,
de l'été.
Exactement.
Le tube, le Niska a la vidéo la plus regardée de l'histoire du YouTube français.
Voilà.
Non.
Si. Réseau a été plus regardé en France que Despacito.
Oh là là.
Just saying.
C'est trash.
C'est super trash.
Trash.
Totalement.
Mais on peut en parler? Qu'est-ce qui s'est passé?
Bah, en fait, du coup, c'était Aurel San. Il y avait
L'Homme Pâle et Big Flo et Oli.
Big Flo et Oli.
Et donc, en fait, le truc, c'est de se dire que. Enfin, moi, ce qui m'a frappé, c'est vraiment l'invisibilisation. Parce que. Enfin, il y a une incompréhension totale quant au fait que des grands noms comme Booba, Niska, Damso, comme tu le disais tout à l'heure, n'aient pas été nominés. Enfin, pour moi, c'est une anomalie. C'est un accident industriel.
C'est pas la première fois que ça arrive, hein. On se souvient tous de la création, de l'année de la création de cette catégorie. Il y avait IAM, NTM, MC Solar contre Mano.
Mano avait gagné.
Et c'est Mano qui a gagné.
Non,
bien sûr.
Le nouveau son de Mano, non, c'était super quand même.
Ouais, la vallée de Dana.
Tu mets ça en soirée, tout le monde danse.
Je veux pas arrêter une soirée. Je veux pas aller dans vos soirées, les gars.
Je veux pas prétendre que je danse pas sur la vallée de Dana, ce serait faux. Mais c'est
trash. Mais il méritait pas.
Alors, pour notre premier sujet, donc, on va parler avec toi, Marie, de ton métier que je trouve vraiment fascinant et assez inédit dans notre pays. Alors, je vais commencer un peu par jeter quelques faits à propos de toi. Si jamais je dis une connerie, évidemment, n'hésite pas à enrichir / me corriger. Donc, tu es coach en entreprise pour les femmes racisées et tu as monté en 2016 une agence qui s'appelle Mkali. C'est bien ça?
Tout à fait.
Je ne prononce pas le N, tu as bien remarqué.
Oui, parce que je t'attendais au tournant et tu as passé le test.
Tout à fait. Je dis également Kylian Mbappé, je respecte. Tu as un compte Twitter, c'est comme ça que personnellement je t'ai connu, qui s'appelle Snatcheuse de France. Tu as plus de 6000 abonnés sur lequel tu partages des anecdotes de coaching, des stratégies de résistance aux micro-agressions, # jeudi survie au taf,
ouais,
et des anecdotes aussi un peu marrantes sur ton petit garçon Baba,
que
j'aime beaucoup par procuration.
Baba.
Et donc, ce que j'aime bien sur ton compte, c'est que tes tweets sont un peu comme des histoires avec des personnages, parce que pour des questions d'anonymat, tu ne nommes pas évidemment les gens avec qui ou pour qui tu travailles. Et du coup, les femmes racisées dans tes anecdotes d'entreprise deviennent des pépites.
Voilà.
Les hommes blancs relous deviennent des gens mis, des gens connards ou les candias.
Candias.
Faut que j'arrête de dire ça, c'est vraiment pas pro.
Franchement, j'étais vraiment chouque quand j'ai vu Candia. J'ai bien aimé.
Keep it 100.
Et donc voilà, tu crées comme ça tout un univers. Et donc finalement.
Et les femmes blanches aussi, non? C'est pas les pimprenelles?
Ah oui, bien sûr, les pimprenelles aussi. Et donc voilà, ça crée une sorte d'univers un peu addictif. Ça se suit vraiment comme une série et tout. Et donc c'est.
Bonsoir, petits amis.
Patron, il faut leur expliquer.
Quoi, nounours?
Tout.
Derrière ça, évidemment, il y a du fond. C'est des témoignages. Parfois poignant,
ouais,
et assez violent aussi sur ce qu'est aujourd'hui le racisme en entreprise. Ta dernière expérience, si j'ai bien compris, c'était dans le luxe, qui est un milieu quand même très corpo, très dur, très blanc.
Ouais.
Et donc c'est après cette expérience que tu as monté ton agence. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et de ce qui t'a donné envie de te lancer là-dedans?
Quand je me repenche en fait sur mon parcours, je me rends compte que j'ai eu quand même un minimum de chance. J'ai toujours eu la présence d'esprit de ne jamais mettre ma photo sur mon CV. Et quand je m'appelle Marie da Silva, j'ai réussi à décrocher des entretiens. J'ai réussi à bosser, en fait. Et je me suis, si tu veux, les dynamiques sur lesquelles je travaille aujourd'hui, même en les vivant à l'époque, j'arrivais pas forcément à mettre des mots dessus, en fait. Et je dirais un peu comme Toni Morrison, je vais vous décrire en fait le jour où j'ai su que j'étais noire. Et ça a été vraiment, si tu veux, ce qui a caractérisé en fait ma dernière expérience. Où je me retrouve au milieu de femmes blanches, où je suis la seule femme noire, où je suis la seule femme plus size, ou tout ce que tu veux. Et c'est là où, premièrement, j'ai su que j'étais noire. J'ai su en fait ce que c'était d'être minoritaire dans un environnement majoritairement blanc, avec toutes les dynamiques en fait qui vont avec. Et surtout j'ai découvert en fait le côté insidieux du racisme. Parce que si tu veux, dans cette expérience professionnelle, jamais de la vie quelqu'un est venu et m'a traité de négresse, jamais. Mais par contre, je portais une afro à l'époque, on m'a fait remarquer plusieurs fois que c'était pas pro, etc., ce genre de choses. On faisait toujours très attention à la manière dont j'étais coiffée, etc. Enfin, et c'est plein de petites choses comme ça qui, additionnées, en fait, te font te rendre compte de ton altérité.
C'est des comportements, j'imagine, qui sont à la limite du harcèlement moral, mais c'est jamais exactement du harcèlement moral.
Après, j'ai des cas de harcèlement moral caractérisé.
D'accord,
si
caractérisé.
Mais après, c'est vrai que je parle beaucoup de microagressions parce que c'est vraiment le... Je veux dire, c'est la petite pique, en fait. Mmh. Et voilà, c'est un peu la petite piqûre de moustique. Voilà. Mais quand tu te fais piquer par des moustiques toute la journée, à la fin, ça produit un effet.
Mmh. Alors, comment ça se passe, du coup? Comment ça se passe comment ça se déroule, finalement?
En fait, c'est... comme je te l'ai dit, c'est vraiment très insidieux. En travaillant sur ces sujets... J'ai commencé vraiment à me rendre compte, en fait, du caractère immersif du racisme. Alors, quand je dis caractère immersif, c'est-à-dire que si on parle de racisme, il faut se rendre compte, en fait, que chaque situation peut amener à du racisme. Ça peut être, tu te lèves le matin, tu vas chercher ta baguette et le boulanger fait exprès de servir d'autres personnes avant toi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est anodin, on peut penser que c'est anodin. Mais imagine plusieurs actes de cette nature pendant la journée et imagine l'effet que ça peut avoir sur toi à la fin de la journée, en fait. L'effet, il est cumulatif.
Et donc, t'as des femmes qui arrivent, qui viennent te voir, mm-hmm. qui sont parfois dans des états psychologiques un peu dégradés, c'est ça ?
Oui, quand elles viennent me voir, souvent, elles sont en position de fragilité. Elles se disent, voilà, moi j'en peux plus, je me sens pas respectée, je n'ai pas de pouvoir, etc. Donc en fait, mon travail, il est vraiment là, c'est-à-dire on part de la situation de la personne et on stratégise une prise de pouvoir. Par exemple, là, on parlait de microagression, c'est élaborer en fait des stratégies de riposte, des stratégies de réponse. J'estime qu'une personne racisée au travail n'a pas expliqué son humanité.
T'as pas à négocier avec ton oppresseur. En fait.
Exactement. J'ai eu le cas, par exemple, d'une pépite qui me dit, voilà, une pépite qui est musulmane. Et ils sont dans la salle où ils déjeunent tous, elle et ses collègues. Et un collègue, un Jean-Mi, se retourne vers elle et lui dit, au fait, que penses-tu des attentats? C'est une question qui peut vous sembler innocente, mais en fait qui n'a rien d'anodin.
Parce qu'elle est dirigée voilà. sur elle.
C'est une question à charge.
T'es musulmane, voilà. Qu'est-ce que tu penses des attentats ?
Exactement, alors que ça aurait dû être une évidence qu'elle pense la même chose que toi. Et donc, c'est quelque chose qui l'avait marqué parce que, justement, elle s'est lancée dans l'explication de son humanité pour se prendre à la fin, après 45 minutes où tu vas à la nage, quoi. T'es là, t'essaies de trouver les mots pour convaincre la personne. Tu vas parler de ton histoire personnelle, etc. Moi, j'appelle ça un peu l'Everest de l'inutile, en fait. C'est-à-dire que tu as mis tes tripes sur la table, tu as parlé de ton histoire, tu as offert tes émotions à cette personne pour qu'à la fin, elle te dise « Ciao, il y a des frites à la cantine ». Et ça, c'est juste pas possible, en fait. Et donc, ce que je fais beaucoup dans mon travail, c'est que je leur dis, en fait, la personne que vous allez essayer de changer, premièrement, ne vous a pas payé, première chose. Et deuxièmement, j'estime quand on est minoritaire dans un espace, on est un peu, c'est un peu une période de guerre, quoi. Et en temps de guerre, la ressource principale, c'est le temps. On ne peut pas laisser une personne influer et nous prendre de notre temps, parce qu'au final, c'est ce qu'on a de plus précieux. Et donc, le but, ça va être de se concentrer en fait, sur des stratégies de riposte qui ne soient ni énergivores, ni mentalement, ni physiquement, en fait.
D'accord, ça passe par quoi? C'est quoi? Tu peux nous donner quelques...
Bah, par exemple, dans le cas de cette pépite, au lieu de mettre 45 minutes à expliquer à Jean-Mi qu'elle n'était pas terroriste, la stratégie à adopter, par exemple, ça aurait été de renvoyer la balle. Mmh. C'est-à-dire, moi, j'appelle ça la stratégie du miroir. Tu fais le Jean-Mi? Bah, je vais Jean-Miser aussi, quoi. Tu me demandes si je ne suis pas contre les attentats comme si c'était quelque chose de pas évident. Je te retourne la question et je vois l'effet que ça a sur toi. Mmh. Ben, je ne sais pas. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as un avis bien précis sur la question?
C'est vrai qu'en entreprise, on a tous eu, en tout cas autour de cette table, cette expérience où on est le seul ou la seule personne de couleur dans tout l'espace, quoi. Mm-hmm. Et moi, c'est vrai que ma première réaction quand je suis en milieu, je dis majoritaire parce que du coup, c'est moi la minorité, c'est plutôt de prendre sur moi, d'encaisser, de banaliser, quoi, finalement. Mm-hmm. Parce que même si je suis conscient de ce qui se passe...
Mais c'est une technique de survie aussi. Hein.
Tout à fait.
Ouais, parce que si quelqu'un te fait une remarque en mode, je sais pas quoi, c'est ami de chez toi, ça, Francky Vincent, ça va tranquille. Alors, si tu commences à expliciter l'agression, tu passes pour la personne confrontationnelle, la personne qui a pas d'humour, la personne qui a pas d'autodérision, je sais pas quoi, et c'est toi qui, en quelque sorte, jette une grenade au milieu de l'open space, quoi. Donc comment tu fais pour les
pas devenir le rabat-joie?
Le rabat-joie, quoi, finalement. Ils disent, ah, mais on pensait pas à mal.
Tu vois le mal partout.
Tu es parano.
Après, je pense que effectivement, là, on parle d'une vraie stratégie de survie. La personne qui se tait dans ces moments-là, alors qu'elle est consciente de ce qui se passe, elle est dans la survie. Après, moi, la question que je pose, c'est ça dure combien de temps, en fait? C'est-à-dire que quand on est dans des situations comme ça, le silence, en fait, va vous protéger, mais de manière très ponctuelle. Parce qu'à la fin, il va se passer ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'à la fin, soit on pète un câble, soit c'est le burn-out, soit c'est la dépression, ou on s'en va, en fait. Mmh. Donc, dans tous les cas, c'est une situation, pour moi, où le silence n'est pas forcément une solution. Comme gifler n'est pas la solution, même si on en a envie à ce moment-là. Le but, en fait, ça va être de faire que la gêne change de camp. C'est-à-dire, moi, j'ai été gênée, je renvoie la gêne. Mmh. Et ça doit durer genre 10 secondes. Jamais de la vie, on s'assoit et on explique à la personne « Oui, mais quand même, tu m'as parlé de Francky Vincent, je voudrais t'expliquer que les stéréotypes concernant les Antilles... » Jamais de la vie, ça doit durer 10 secondes.
Parce que sinon...
On tombe dans la négociation de son humanité et la personne, en fait, va jouir du fait qu'elle peut nier l'expérience de l'autre.
Ce que tu appelles le dominant de porn.
Voilà, c'est ce que j'appelle le dominant de porn. Quand tu as 45 minutes, quand tu as pris 45 minutes de ton temps pour expliquer à la personne et qu'elle te fait « Ouais, bah, finalement, c'était intéressant ce que tu m'as dit, mais je suis pas d'accord. Voilà, merci. Voilà, »
C'est marrant, je l'ai déjà entendu.
Voilà. Ça me rappelle des trucs, c'est ce que j'allais dire. Là. Voilà. J'ai des flashs
alors
qui
reviennent. Alors que toi, t'es là, t'as mis tes tripes sur la table. Et donc, c'est pour ça que j'appelle ça du dominant de pente, parce qu'en fait, cette personne-là, c'est aussi une question de privilège. Elle va avoir le privilège
de
nier. Mmh. Et de pas être d'accord. Alors, ce que tu lui dis, c'est une réalité tangible, objective, factuelle. Tu vois? Et quand j'en reviens aux stratégies, moi, j'aime bien la stratégie du miroir. Je renvoie exactement ce que tu m'as donné. Je te fais le kamehameha, tu vois. Il y a aussi le fait de demander à la personne quelles sont ses intentions.
C'est-à-dire?
Ah oui.
Par exemple, si... Je sais pas si, par exemple, une personne vient envers toi et te dit... j'ai eu des cas où, une personne arrive vers toi et elle te fait l'accent antillais.
Ouais.
Toi, bien sûr, poker face, jamais montrer ses émotions. Au lieu de t'énerver, tu peux lui demander « Mais quand tu fais ça, quand tu imites l'accent antillais de cette manière-là, quelle est ton intention exacte ?» Mais vraiment très sérieux, avec, tu sais, les doigts en éventail. Genre, après, tu te poses sur ton bureau, genre « J'ai le temps.
J'écoute.
Je t'écoute. Quelles sont tes intentions exactes quand tu me fais l'accent antillais, que tu m'as déjà fait hier d'ailleurs, tu as vu que je n'avais pas ri. Pourquoi tu as recommencé? Qu'est-ce qui t'a motivé à recommencer, vraiment? En mode Mireille Dumas, bas les masques, quoi. T'es en psychothérapie.
On parle beaucoup de dépenses d'énergie pour se défendre.
Exactement.
Pour se défendre.
Ouais.
Je dis sur ton Twitter que la première chose que tu fais souvent quand tu prends en charge une pépite, c'est de lui dire d'abord tu vas te prendre un RTT,
ouais.
Tu vas te reposer, tu vas t'occuper de toi et ensuite on va aller au charbon.
Exactement, ouais.
Déjà, pourquoi ces femmes, elles viennent te voir, toi? Et pas...
La RH?
Bah, la RH, les syndicats, la médecine du travail. Non,
c'est une vraie question.
En fait, le...
Je crois connaître la réponse.
Moi aussi,
je t'écoute.
Dis-nous, Marie.
Bah, parce que, en fait, mon discours est sans appel. Et si tu veux, je nomme les choses. Et le fait de nommer les choses, t'as des personnes, en fait, qui vont s'identifier, qui vont dire C'est une personne qui a osé dire blanc, c'est une personne qui a osé dire racisme, c'est une personne qui ose dire femme racisée. Je ne peux être qu'en sécurité avec elle. Et ce qui se passe aussi, c'est que les personnes qui vont venir me voir, elles ont essayé d'autres choses avant aussi. Il y a tout un parcours. Quand elles disent à leur psy « je suis victime de racisme », le psy qui souvent est blanc va lui dire « oui, mais travaillez sur vous ».
Oui, oh là là.
Tu vas voir ton amie blanche, Cindy, tu lui dis « voilà, j'ai été victime de travail, j'ai été victime de racisme au travail », elle va te dire « mais est-ce que tu n'es pas un peu parano ?»
Oui.
Tu vas voir la RH va te dire « non, mais vraiment, ce n'est pas dans les valeurs de l'entreprise ».
Et puis ils vont vouloir éviter aussi une forme de scandale.
Exactement.
Peut-être.
Donc du coup, il y a une négation tellement violente de nos expériences racistes au travail, que naturellement, elles vont se tourner vers moi. Enfin, les personnes qui se tournent vers moi ont trouvé naturel de se tourner vers moi parce que, justement, j'avais un discours qui faisait écho en elles, en fait.
Mais elle, t'es une femme noire, enfin, t'es blanche plutôt, depuis que t'es venue de Côte d'Ivoire.
Je ne sais plus qui je suis, François.
T'avais peut-être une question pour Marie.
Est-ce que tu donnes tes conseils sur Twitter ? Est-ce que tu racontes tes expériences que t'as avec les pépites ? Pour encourager les femmes à essayer de mettre des stratégies en place elles-mêmes de leur côté.
J'ai commencé à faire justement les jeudis survie au taf pour pouvoir justement visibiliser mon travail, mais aussi et surtout pour que d'autres personnes, d'autres femmes racisées se disent « bon bah si Pépite l'a fait, je peux le faire ». Mais le but c'est qu'elles ne fassent pas un copier-coller des stratégies dont je parle le jeudi, mais c'est qu'elles puissent avoir les outils d'analyse pour analyser elles-mêmes leur situation et ensuite développer en fait des stratégies qui leur sont propres.
D'accord. Parce que moi, c'est vrai que c'est, pour moi, ça m'inspire vraiment, quoi. Mais je me dis aussi que tu dois quand même avoir pas mal de trolls, de haters.
Mais ça, c'est la base. La pimprenelle qui est vexée parce qu'elle aussi, elle aimerait assister à mes workshops, mais elle aussi, elle ne comprend pas pourquoi je ne m'adresse pas à elle et qui trouve que, en fait, je la discrimine. Donc ça, c'est la base. Après, tu as le Jean-Mi qui dit « Oh, quand même, les Jean-Mi que vous décrivez dans vos threads ne me ressemblent pas, etc. »
Et pourtant, je m'appelle Jean-Mi. Voilà. Pourtant, je m'appelle Jean-Mi.
Voilà, donc j'ai beaucoup de du not all white men dans mes mentions. J'ai beaucoup de pimprenelles qui trouvent que finalement, je ne fais pas de sororité de genre. Moi, je rappelle juste que la sororité que je mets en œuvre, c'est une sororité politique. Et je rappelle quelque chose que les gens n'aiment pas entendre, c'est que même à l'intérieur du groupe femmes, il y a bien évidemment des rapports de domination qui sont traversés par la race et la classe. Et c'est ce que je mets en tout cas en évidence. Et ça, personne, enfin en tout cas en France, personne n'est prêt.
C'est pas quelque chose
à
qu'on
l'entendre.
Aime souligner.
Exactement. Mais enfin, est-ce que ce sont vraiment des haters ? Enfin, moi j'ai envie de dire, ils sont tellement conditionnés à privilégier leur confort au-dessus de tout, que finalement ce sont des réactions normales pour moi.
Bonne nuit les petits, faites de bons rêves.
Bah, merci Marie pour ton expertise, ton témoignage, je suis sûr que ça va en inspirer plus d'une. Et puis surtout, moi je vous recommande de la suivre sur Twitter. Alors où est-ce qu'on te retrouve ?
Alors donc sur mon Twitter c'est @napilicaio, @napilicaio. Donc, snatcheuse de frange, et vous pouvez me retrouver sur le hashtag jeudi survie au taf.
Et on mettra les liens dans la description de l'épisode.
Yes. Et on peut contribuer à Ankali Works aussi, non ?
Tout à fait, vous pouvez contribuer à Ankali Works pour plus de formations. Les dons en fait, que vous m'avez déjà faits m'ont permis en fait, de donner des places gratuites pour mes workshops, et ça, c'est cool.
Ok.
Ah, super.
Bon, ben, yes. Voilà, nice. plein de choses à
Merci
développer.
Merci pour tout ce que tu fais, en tout cas.
Merci.
On va passer à Mélanie, qui nous revient d'Afrique.
Oui.
L'Afrique, c'est pas un pays, hein, Kevin.
De la noirie. Ils disent l'Europe, là-bas.
De la noirie.
Ça va, je m'appelle pas Trump, j'ai pas non plus insulté. Ça va.
Alors, effectivement, je l'avais déjà dit que je devais aller passer 3 semaines en Côte d'Ivoire. C'était la première fois que je mettais les pieds sur le continent africain et donc aussi en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas rentrer dans les détails de mon histoire familiale, mais c'était un peu compliqué. Le contact avait été coupé il y a 35 ans entre mon père et sa famille. Donc, en fait, c'était toute une partie de mon histoire que je ne connaissais pas. Et donc, avec ma petite sœur, on s'est décidé cette année à aller chez notre cousin, parce qu'on a un cousin là-bas qui nous avait contactés. Et donc, on est allé à Abidjan pendant 3 semaines. C'était assez impressionnant. Surtout dans le sens où, en fait, Moi, je m'identifie, en France, je m'identifie comme étant une femme de couleur, une femme métisse, noire. Enfin, plus noire que blanche, en fait, parce que bah, dans la société, je suis... Enfin, je me vis comme une personne racisée, quoi. Quand je suis arrivée là-bas, dès qu'on est arrivé le premier jour, on est allé se promener dans Abidjan et tout, les gens nous dévisageaient avec ma sœur. Ils nous regardaient de la tête aux pieds. Les enfants, ils ouvraient la bouche, ils nous touchaient la peau, comme ça, quand on passait. Et les enfants criaient « Les blanches, les blanches, les blanches !» partout où on allait. Dès qu'on était dans les marchés, dans la rue, les mecs venaient nous voir, faisaient « Ah, les blanches, la blanche, oh là là !» Et au début, c'était mes dissonances cognitives. Je me suis dit « Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ?» Et en parlant avec ma famille, effectivement, j'ai réalisé qu'il y avait plusieurs choses qui étaient en jeu. En fait, il y a le fait qu'à partir du moment où t'es pas noir, noir, t'es blanc. Donc en fait, c'est le one drop rule à l'envers.
Quand tu dis noir-noir, c'est en termes de teinte de peau.
Ouais, il y a vraiment, bon, il y a déjà un très fort colorisme. Quand au début, on avait, avec ma soeur, on a sorti les petits t-shirts, les petites jupes et tout, ils nous ont dit « Ah là là, mais vous allez noircir !» Et nous, on a dit « Bah oui, on est en vacances, on veut bronzer !» Et elles étaient mortes de rire, quoi, les meufs. Elles ont fait « Ah, mais nous, c'est l'inverse, nous, on veut blanchir et vous voulez noircir et tout !» Et du coup, c'est vrai que quand après, j'ai voulu commencer à parler colorisme et dire machin, mais tu leur parles une autre langue quand tu dis ça, quoi. Elles disent « Bah quoi, mais c'est normal, tu veux être blanc, c'est bien d'être blanc. » Donc il y a vraiment ce rapport à la couleur qui m'a... En gros, quand j'allais sur le marché, on me disait « t'es blanche » et j'essayais de dire « Mais non, je suis métisse », on me disait « Non, t'es blanche ». Alors après, il y a tout ce truc des filles qui se font des piqûres. Apparemment, il y a des crèmes et des piqûres pour blanchir la peau. Et il y a pas mal de jeunes filles qui font ça, des meufs qui ont entre 20 et 35 ans. Et elles-mêmes, ces filles-là, on les appelle les blanches. Parce que dès qu'elles sont plus claires que la moyenne, t'es blanche. Alors, le vrai truc, c'est quand j'étais sur un marché et on m'a appelée la Reine des Neiges, je m'en suis pas encore remise. Quoi. Vraiment, je me suis dit, faut pas exagérer, je veux bien être blanche, mais bon. Mais au-delà de ça, il y a aussi le fait, je pense, comme pour nous, de ne pas être habitués à voir, par exemple... on va dire les Européens, ils ont du mal à faire la différence entre les Asiatiques. Tu vois, ce truc, les Asiatiques, ils se ressemblent tous, les Noirs, ils se ressemblent tous, machin. Et bien là-bas, ils ont ça, mais pour les Blancs. J'ai montré une photo de moi et mon copain, qui est blanc, et ils nous ont dit, vous ressemblez.
Est-ce qu'on peut préciser que ton copain est roux ou pas?
On peut, hein, mais il y a vraiment ce truc de...
Vous n'êtes plus un couple interracial, là.
Et ça m'a soufflé. En fait, j'ai compris que, par exemple, alors ça, c'était mon gros truc, c'est... À un moment, je parlais de Beyoncé et on parlait de qu'elle avait eu des stylistes africains pour son dernier album, notamment sur les monnaies. Et là, mon cousin, il me dit « Mais attends, mais des stylistes africains ?» Il me fait « Les Blancs, ils aiment bien les stylistes africains. » Je fais « Mais Beyoncé, elle est noire. » Enfin, c'est une afro-américaine. Il me fait « Ah bon, Beyoncé, elle est noire ?» Le mec, il n'avait pas réalisé que Beyoncé n'était pas blanche.
Il nous a fait un sketch à l'envers. Il y avait un truc comme ça dans le SNL. C'est le jour où les blancs ont découvert que Beyoncé était noire.
Ah oui, oui.
Et ils se sont tous mis à flipper. Là, c'est quoi ? En Afrique, en Côte d'Ivoire. Ok, c'est cool.
Mais ouais, c'est vraiment... Il y a vraiment ce truc j'ai l'impression que dès que t'es plus clair qu'un noir d'Afrique, tu n'es plus noir.
Est-ce que c'est qu'une question de teinte de peau ou c'est peut-être aussi tes codes vestimentaires, ta façon de, je sais pas, tu vois, peut-être que ton absence d'accent,
oui, l'accent
ou ton
aussi,
accent,
mais c'est surtout la couleur. D'accent. Tu vois, les enfants qui te touchent la peau dans la rue, c'est vraiment une histoire de couleur, c'est vraiment une histoire de teinte qu'ils n'ont pas l'habitude de voir.
Après, c'est pas parce qu'on te dit que t'es pas noir que tu vois, enfin,
oui.
La race c'est aussi quelque chose, c'est
mais
par
c'est
rapport
quelque
à un
chose
endroit
que tu vis
donné,
différemment selon où t'es, quoi.
Ouais, bien sûr, c'est oui.
Ouais, bah. C'est Amandine Gay, justement, dans un document Arte, qui disait qu'en France, on lui disait, on la renvoyait tout le temps à ses origines et on lui disait qu'elle était noire, alors que quand elle était... Dans quel pays c'était déjà ?
C'est au Canada.
Ouais, en Canada, tu es française, juste française. Mmh. C'est intéressant, cette histoire de fluidité, presque parfois géographique, de la race. Moi, par exemple, ben, je suis antillais, je suis noir. Quand je vais aux Antilles, à cause de tout un tas de trucs, le fait que j'ai pas d'accent, le fait que je vis vraiment à plein temps...
Tu as un accent, François ?
J'ai un accent, hein.
Tu as pas un accent antillais ? Ah oui, si tu parles une langue, c'est que t'as un accent.
Je veux dire, j'ai pas d'accent, j'ai pas l'accent.
T'as l'accent français.
Parisien.
Voilà. Eh ben, quand je suis là-bas, on me considère pas exactement comme un anti à des Antilles. On va me considérer comme un négropolitain, un truc comme ça. Et selon le pays où je vais aller, ça va tout le temps changer. C'est intéressant. Et toi, en plus, Mel, qui est déjà de base métisse, j'imagine que parfois, moi déjà, des fois, je me retrouve un peu le cul pris entre deux chaises. Parce que bah, du coup, quand je suis là-bas, on me dit que je viens d'ici. Et quand je suis ici, on me dit que je viens de là-bas. Comment tu te sens là depuis que tu es revenue?
Déjà, quand je suis arrivée, c'était un peu bizarre parce que j'ai dit, on était à Yopougon, qui est vraiment un quartier où il n'y a que des Noirs. Il n'y a pas d'expats, il n'y a pas de Blancs. Les Blancs, ils sont à Cocody ou ils sont à la Riviera et sur le plateau, à Abidjan. Et avec ma sœur, quand on est revenue, on s'est dit, en 3 semaines, on a vu un Blanc. Un seul qu'on a vu quand on est passé en allant à l'aéroport. Et du coup, je suis arrivée en France et le fait de revoir des personnes blanches, je me suis dit waouh, ça m'a fait un choc.
Ils sont nombreux, ils sont partout.
Il y en a beaucoup. C'est con à dire, mais j'avais jamais vécu ça en fait. D'être dans un environnement avec que des Noirs partout, dans ma famille, dans la ville, partout, à l'intérieur, dehors et tout. Je n'avais jamais vécu ça avant.
Oh ma pauvre.
Bah ouais.
Non, c'est dur.
Kevin, tu disais que tu avais peut-être l'intention de te rendre en Côte d'Ivoire aussi bientôt.
Ouais, moi j'aimerais bien parce que ma maman, qui est martiniquaise, elle a grandi en partie à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et aussi à Lomé, au Togo. Et elle n'y est jamais retournée depuis, je pense, le début des années 70, quelque chose comme ça, donc il y a très très longtemps. Et moi, je ne suis jamais allé en Afrique, donc même pour des raisons professionnelles, personnelles, plein de trucs qui m'intéressent, j'ai dit en début d'année à ma maman, il faut qu'on essaye d'aller en Côte d'Ivoire en 2018.
Go.
Ouais, je te donnerai tous les bons plans.
Ah bah, je suis chaud. Tu connais, toi, Marie?
Oui, moi, je suis originaire de Guinée-Bissau. Enfin, okay. Je suis née ici, mais mes parents viennent de la Guinée-Bissau, et oui, je connais la Guinée. Et c'est marrant ce que tu dis. Enfin, effectivement, enfin le rapport, il est peut-être pas le même. Moi, si on va me dire ouais, t'es blanche, mais en fait, avec le sourire en coin, genre voilà, c'est mais je vais avoir le même souci que toi, François, quand on me traite de négropolitain. ça me fait juste trop rire, ça se fait même pas. Mais voilà, enfin moi, je vais être quand je vais en Guinée, je vais être effectivement la négropolitaine. Après, il y a aussi l'expérience, elle sera forcément différente puisque je suis une femme noire. Et ce sera aussi forcément différent parce que je parle le dialecte aussi qui est le mandjac.
Donc t'arrives plus facilement à te fondre dans l'environnement.
Voilà, je me fonds dans le décor. Ouais.
Mélanie, d'autres choses à ajouter sur la Côte d'Ivoire? On a fait le tour.
C'est très beau, allez-y, allez à Grand Bassam et à Assini, paradis sur terre.
Ok, je note. Ma recommandation, c'est une série qui est encore inédite en France qui s'appelle The Shy.
My mother said I ain't supposed to cross this block.
Wow. How she gonna know?
Cause Jesus watching.
No, he did not just say Jesus is watching.
Yes, he did.
Qui est diffusé depuis pas très longtemps, depuis le début d'année, sur Showtime aux États-Unis. C'est une série qui a été créée par une femme noire, queer, qui s'appelle Lena Waithe. Qui, l'année dernière, avait gagné un Emmy pour un épisode qu'elle avait réalisé dans la série Master of None d'Ariz Ansari. Donc, l'épisode de Thanksgiving, où elle parlait justement de la difficulté pour une femme noire de faire son coming out. Et donc, cet épisode était assez magnifique. Et donc là, maintenant, elle a son propre show, qui s'appelle The Shy, et qui se passe dans le South Side de Chicago, qui est un quartier noir, majoritairement noir, qui est connu tristement pour... les homicides, les records de violence, etc. Et elle avait envie de faire une série sur ce sujet-là, mais du point de vue des gens qui y vivent. Donc pour l'instant, c'est assez intéressant. Je vous recommande vraiment. Après, c'est assez violent, donc c'est pas tout grand public. Mais voilà, c'est quelqu'un que j'ai décidé de suivre un peu plus en 2018 parce que c'est une femme de talent et vraiment ce qu'elle fait, c'est classe.
Et est-ce que c'est un peu dans la même veine que The Wire? Parce que The Wire, c'est la base.
C'est la base, c'est la référence absolue.
Il y a clairement une inspiration de The Wire.
Ouais.
Mais j'ai lu des articles et en fait, le truc qui ressemble le plus, c'est pas The Wire, c'est peut-être Tremé, qui est une autre série de créateurs de
The
Wire.
Simon.
Voilà.
Alors moi, je voulais vous recommander la Kelly's Week. En fait, je voulais recommander une série d'articles. Le magazine américain Fader, qui parle beaucoup de musique et de culture, fait souvent des semaines consacrées à différents artistes. Je me rappelle, il y a quelques mois, ils avaient fait la semaine Sean Paul. J'étais relativement au taquet également. Et voilà, j'arrive un peu après la bataille, mais en novembre dernier, ils ont fait une Kelis Week. Et il faut savoir que pour moi, Kelis est vraiment dans le panthéon des chanteuses de R&B et je trouve qu'elle est largement, largement sous-estimée. On résume souvent Kelis à Milkshake et Trick Me. Mais.
C'est magnifique ça, c'est mon énergie.
Que font les gars aujourd'hui, en fait, Kelis l'a fait 10 ans avant, le style vestimentaire avec son afro coloré, ses fringues, le carré plongeant, elle l'a fait genre 3 ans avant Rihanna, des choses comme ça. Le mélange évidemment des genres, c'est un R&B très alternatif, vous savez, alt R&B qui mélange beaucoup de rock, d'électro et de choses comme ça. Elle a fait un album de house en 2010 qui s'appelle Fleshtone avant tout le monde. Bref, elle a souvent été précurseuse et je trouve que j'entends rarement des gens dans leur classement des meilleures chanteuses de R&B ou des plus innovantes, j'entends rarement des gens citer Kelis. Donc j'aimerais qu'on lui redonne ses props, qu'on lui redonne son crédit. Voilà, et donc dans la Kelis Week, il y a plein d'articles super intéressants. Il y a une interview évidemment de Kelis elle-même qui parle de la façon dont elle a un peu arrêté la musique en ce moment pour se mettre à la cuisine, qui est son autre passion. Et d'ailleurs, son dernier album s'appelait Food. Voilà, comme ça on est dans le thème. Il y a des témoignages d'artistes qui racontent à quel point elle a été inspirante et innovatrice. Il y a une revue de ses clips les plus barrés. Voilà, plein de choses qui redonnent un peu sa juste place à cet artiste qui est, selon moi, injustement ignoré. Allez la lire, Kelis Week, sur le magazine Fader.
Je vais aussi parler de musique, une fois n'est pas coutume. Je vais vous parler de musique ivoirienne, donc, qui, contrairement aux victoires de la musique, a des personnes noires. Bref. J'ai beaucoup appris en fait, de la musique en vogue en ce moment, en tout cas à Abidjan, grâce à mes petits-neveux, encore une fois, qui sont des danseurs hors pair.
Ils ont quel âge ?
Il y en a un qui a 5 ans et un qui a 8 ans.
D'accord.
Dansent tous les deux comme des dieux, bien évidemment. Et ils m'ont dit, Tanti, nous, ce qu'on aime, c'est le manger chier. Donc, le manger chier, je ne savais pas ce que c'était. C'est une chanson d'un mec qui s'appelle Safarel Obiang. Et donc, évidemment, comme le titre l'indique, ça parle de manger et de chier. Et la danse va avec. D'abord, tu manges. Donc, tu mets la main devant la bouche. Et puis après, tu chies. Donc, tu tapes sur le cul. Mais il faut le faire dans un rythme un peu particulier. Hein. Incroyable, tu l'écoutes une fois, t'as envie de l'écouter plein de fois. Les enfants dans la rue dansent sur ça. Enfin, c'est ouf, dans les maquis, tout le monde danse sur ça. Voilà, c'est manger chier. Il y a un mec aussi qui s'appelle Serge Beno. Alors, le Mataswag. Tu connais peut-être,
oui.
Voilà, oui, très connu hein, là-bas. Et tout le monde, alors ça, les enfants comme les adultes, on dit ah non, on adore ça, c'est génial. Donc moi, je trouve que c'est un peu moins énervé que le manger chier, mais ça s'écoute bien. Et sinon, dernière chanson, mais là, il a 44 millions de vues sur YouTube, donc je pense qu'en France aussi, on connaît, c'est Davido. Non mais voilà, et ils adorent. Et puis aussi, quand je suis arrivée, ils m'ont fait mais Tanti, tu connais Pouloulou? Je trouvais ça trop mignon.
Il est partout, dans toutes voilà. Les sauces.
Mais le vrai king en fait d'Abidjan, c'est DJ Arafat qui est affiché partout.
Même ici, il est très connu.
Ouais, mais là-bas, c'est vraiment il y a Didier Drogba et après il y a DJ Arafat. Quoi. Ouais. Tu vois, c'est vraiment voilà, les deux qui sont affichés partout. Et Didier Drogba qui est habillé en tenue traditionnelle sur les autoroutes d'Abidjan pour te vendre des forfaits Orange.
Voilà, mondialisation.
Et la boc, voilà la boc et la bière avec la bière ivoire, les deux bières de Côte d'Ivoire. Voilà.
Marie, t'avais un truc aussi à nous recommander. Qu'est-ce donc ?
Alors moi, il y a une initiative que je trouve admirable et super, parce que je traîne qu'avec des gens super. C'est une initiative qui s'appelle les rendez-vous sex care, qui vont être hostés par une psy qui s'appelle Stella Tiendrebeogo. Stella Tiendrebeogo. Avec une amie à moi qui s'appelle Olivia. Et en fait, les rendez-vous sexcare, en fait, ça va être des rencontres avec des femmes noires où on va explorer la question de la sexualité, de l'intimité, des choses dont on ne parle pas assez dans notre communauté. Donc, ça risque d'être du très, très, très lourd. Et donc, je vous invite à aller les voir sur leur page Facebook, rendez-vous sexcare. Et si je devais recommander une autre chose, ce serait quoi ? J'ai rien en tête. Je voudrais juste faire une dédicace à mon petit baba.
Oh. Bisous, baba.
Bisous. Voilà. Il a l'air tellement... Il a quel âge ? Il a 4 ans environ,
il a 4 ans et demi.
Il a l'air tellement intelligent, éveillé pour son âge. Je me rappelle du tweet où tu disais qu'en gros, il avait déjà compris que...
L'intersectionnalité.
Oui, il a compris.
Donc, il avait déjà compris que c'est pas grave d'échouer, en fait, dans la vie.
Tout à fait, parce qu'en fait, je le coach. Il a un peu peur de, il a un peu peur de l'échec. Et donc, tous les jours, je lui raconte un truc que j'ai raté.
Oh.
Voilà. Et donc, il vient, il pose sa petite main sur mon épaule, il me fait pas de patte. Il fait « Oh, ça va aller, maman. Mais tu t'es vraiment trompée. »
Voilà. Il est déjà à fond le self-care.
Voilà. Et donc, il a compris qu'il avait le droit de se tromper et ça déchire.
Tu vas lui acheter un pull King of the Jungle, du coup ?
King,
ouais, tu
King,
sais,
la, ah ouais, c'est la, King of the Jungle.
C'est le montage avec la couronne.
Voilà, voilà. King front. Of the Jungle, ça me va pour lui.
D'ailleurs, on n'a pas parlé, mais juste les H&M qui brûlent en Afrique du Sud, c'est chaud.
C'est vrai, ça brûle.
Ah oui, oui, ils ont.
Ça brûle, c'est chaud.
Ils les ont fermés. Oui, tu vois. Ils les ont fermés. H&M a fermé tous ses magasins en Afrique du Sud. Hein.
J'ai envie de faire voilà. Un rire démoniaque, mais
voilà. Tout ça à cause.
J'ai envie de faire un rire démoniaque.
Juste un chat
designer.
Juste voilà. Au retour des choses, qui sème le vent, etc., etc. Je crois qu'on a fini pour aujourd'hui.
Oui.
C'était le Chip. N'hésitez pas à écouter l'émission. Vous pouvez nous rejoindre et nous suivre sur Twitter et Instagram @lechippodcast. N'hésitez pas à nous laisser une revue sur l'application Apple Podcast. Je crois que le taux de rigueur c'est 5 étoiles, c'est ça ? Sinon ça marche
si
pas.
Si tu mets moins, on te retrouve et on t'écoute.
Ok, d'accord. On parlait de harcèlement sur internet tout à l'heure. Voilà, l'émission a été réalisée par Charlie Marcellec. Voilà, on vous fait des bisous et à la prochaine fois, à dans 15 jours.
Bisous.
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 Bye.
Arte Radio.